Les questions de Sophie. Voici Sophie Stanquet.
Mesdames, Messieurs, bienvenue aux questions de Sophie. Aujourd'hui, comment s'assurer que tous ont accès à un logement qui convient à leurs besoins ? Se loger, avoir un toit est un besoin de base et plusieurs chartes des droits et textes constitutionnels mentionnent le droit au logement. Théoriquement, nous ne devrions pas consacrer plus de 30% de nos revenus au logement. Et pour les personnes qui ont un faible revenu, une grande famille, cette équation ne fonctionne pas. Puis ils constatent que le budget alloué au loyer gruge une partie grandissante du budget des ménages. Ce qui oblige à couper dans d'autres besoins, et parfois c'est même des cauchemars parce que ce sont des besoins essentiels. Pour certains, un logement convenable veut dire davantage qu'un appartement propre et bien isolé. Les personnes en situation de handicap et les aînés ont des besoins spécifiques qui peuvent compliquer grandement la recherche du logis. Alors, comment s'assurer que tous ont accès à un logement qui convient à leurs besoins? Nous tenterons aujourd'hui de trouver quelques pistes de réponse à cette question et nous aurons comme invité Marie-Josée Corriveau du Front d'Action Populaire en Réaménagement Urbain, le FRAPRU. Ensuite, nous aurons Pascale Marceau. Elle est responsable du dossier de l'habitation à la Confédération des organismes des personnes handicapées du Québec, la COFAN. Nous parlerons également à Maître Guillaume Rondeau. Vous savez qu'en ce moment, les gens ont reçu leurs lettres. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les propriétaires, souvent, à cette période-ci, en profitent. Donc, on va voir vraiment spécifiquement le côté juridique, l'aspect légal des logements avec M. Rondeau de chez Éducaloi. On parlera des logements pour les aînés. Dany Prudhomme, directeur général de la FADOC, sera avec nous. Et notre coup de chapeau sera avec Brunilda Ries, fondatrice de Rayons de Soleil, qui offre des logements aux primordiques, aux mères célibataires qui désirent retourner aux études. On débute l'émission avec Marie-Josée Corriveau du Front d'Action Populaire en Réaménagement Urbain, le FRAPRU. Bonjour, Madame Corriveau.
Oui, bonjour.
Alors, il y a toujours autant de besoins, tant à Montréal qu'un peu partout au Québec. Dressez-moi le portrait exact. Comment ça se passe? Est-ce que c'est toujours le cauchemar? Là, on sait qu'au mois de février, les gens ont donné leur avis. Et puis, bon, évidemment, en juillet, c'est le cauchemar. Comment ça se passe pour Montréal et les régions?
Bien, en fait, je vous dirais que les choses se sont ont changé de visage. Elles se sont détériorées en changeant de visage. On n'est plus dans la pénurie de logements qu'on a connue au début des années 2000, où on voyait des filets de gens attendre devant des portes de logements à louer. Les taux d'inoccupation dans le secteur du logement locatif ont augmenté, dans la plupart des cas, au-dessus de ce qu'on appelle le seuil d'équilibre. Les économistes, les gouvernements estiment en général que lorsqu'il y a au moins 3 % de logements locatifs inoccupés, donc disponibles à la location, on n'est plus en pénurie et le rapport de force entre les propriétaires et les locataires serait théoriquement équilibré. C'est pas tout à fait vrai, mais cela étant dit, c'est sûr qu'au début des années 2000, on était dans une rareté sévère de logements. Oui. Les taux d'inoccupation frôlaient à peu près partout les 0%. On n'est plus dans cette situation-là. Dans la plupart des villes au Québec, les taux d'inoccupation sont au-dessus de 3% maintenant. Par contre, quand je vous dis que la situation s'est aggravée, s'est détériorée, c'est que les loyers ont beaucoup augmenté durant la première décennie des années 2000, au-delà de la capacité de payer des locataires. Mmh. On se retrouve donc avec un problème croissant d'incapacité de payer des ménages locataires. Et c'est ce que notre dernier dossier noir sur le logement et la pauvreté qu'on a publié en septembre dernier nous a permis de révéler. En fait, on a passé des commandes à Statistique Canada à partir de l'enquête menée auprès des ménages en 2011 pour voir un peu là, faire l'état de situation. Mm-hmm. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que à peu près partout au Québec, la capacité de payer des locataires avait beaucoup, beaucoup diminué. C'est le principal problème. Mm-hmm. Parmi tous les gens qui ont des problèmes de logement liés à l'incapacité de payer, il y en a qui sont plus mal pris que d'autres.
Oui, alors est-ce que c'est toujours, bon, on parle toujours de Montréal, mais c'est un fait que la plupart des gens déménagent ailleurs parce que c'est exorbitant, là, les loyers, ça augmente et ça ne va pas en descendant, là, puis il y en a de moins en moins. Est-ce qu'on a toujours ce portrait-là qu'à Montréal, c'est pire qu'ailleurs?
C'est pas pire qu'ailleurs. Les problèmes sont différents. Je vous dirais qu'il y a des régions où les loyers sont un peu moins chers, mais les revenus sont aussi un peu moins élevés. Alors, c'est pas nécessairement plus facile. Mais si je vous permettais, à l'échelle du Québec, donc pour tout le Québec, ce que les données de Statistique Canada nous ont révélé, c'est qu'il y a près de 110 000 ménages qui doivent consacrer plus de 80 % de leurs revenus pour se loger, des ménages locataires.
Ce qui est énorme.
C'est énorme et c'est 25 % de plus qu'en 2006, quand on compare les données de l'enquête de 2011 avec celles du recensement de 2006. Dans le cas des ménages, comme vous le mentionnez tantôt, qui dépassent le seuil normalement admis de 30 %, c'est presque 500 000 ménages locataires qui sont dans cette situation-là. Et là-dessus, il y en a presque 230 000 pour qui c'est la moitié du revenu qui est consacré au logement. Ça veut dire, donc, pour tous ces gens-là, d'autres problèmes, non seulement en termes de logement, mais aussi liés à la réponse de leurs autres besoins essentiels, que sont la nourriture, les médicaments, l'alimentation, les transports, s'habiller, les fournitures scolaires des enfants, etc. Donc, c'est d'autres endroits où les gens doivent couper s'ils peuvent, ils veulent pouvoir conserver un logement, un toit au-dessus de leur tête.
Alors, qu'en est-il de la gentrification? Parce que ça aussi, c'est un gros problème. C'est bien beau de faire des rénovations puis de faire des superbes condos nouveaux, mais là, on tasse les gens sont dans la rue. On préfère évidemment ceux qui ont plus d'argent. Qu'en est-il? Est-ce qu'il y a des lois? Est-ce qu'on a des quotas du 5 % obligatoire? Comment ça évolue?
Bien, d'abord, je vous dirais que le problème de la gentrification, il existe essentiellement à Montréal et dans les quartiers centraux de Montréal. Donc, c'est pas un problème qui touche l'ensemble de la population québécoise. Je veux pas dire que je vais pas le rendre insignifiant dans les quartiers où il sévit, mais je dis juste que c'est pas le problème qui touche l'ensemble du Québec. Le problème qui touche l'ensemble du Québec, c'est l'incapacité de payer des locataires de plus en plus grandes. Dans le cas de Montréal, ce qui est particulier, et c'est vraiment qu'à Montréal ou à peu près dans la région métropolitaine de Montréal qu'on retrouve ça, c'est que la production de nouveaux logements locatifs est extrêmement basse, alors que la production de condos, elle, est extrêmement élevée. Oui. Ça, c'est par le secteur privé. Et évidemment, la construction de condos entraîne une augmentation du prix de l'habitation partout, quelle que soit la tenure locative ou propriété absolue. Donc, pour les locataires, ça se traduit également par des augmentations de loyers consécutives. Mais c'est un phénomène qui est plus lié aux quartiers centraux de Montréal. Okay. Si on sort de ces quartiers-là, même sur l'île de Montréal, il sévit moins sévèrement. Par contre, on a toujours le même problème de des faibles revenus des ménages versus des augmentations de loyers connues particulièrement au début des années 2000, durant la première décennie, et doublé du fait qu'à Montréal, entre autres, le parc de logements est ancien, généralement plus ancien qu'ailleurs, et qu'il vieillit mal par-dessus le marché.
Bon, au niveau des logements sociaux, est-ce qu'on en a assez? Est-ce que ça bouge? On a l'impression que c'est stagnant.
En fait, si c'était stagnant, ça serait déjà moins pire, je crois.
Alors, c'est quoi?
Le problème...
On fait une reculade, quoi? On recule?
Oui, c'est ça. C'est qu'on est en train de perdre des acquis. Les gouvernements supérieurs sont en train de se désengager à grande enjambée, je vous dirais, face au logement social. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Québec, il n'y a que 11 % du parc de logements locatifs qui est constitué de logements sociaux. Alors que dans d'autres pays comparables en termes de population, en termes de richesse également, notamment dans les pays scandinaves, on a des proportions qui sont plus proches de 50, voire de 60 %. Alors, on est très peu équipés ici en matière de logement social. Et pourtant, c'est à peu près la seule façon de répondre aux ménages à faible et à modeste revenu, de garantir leur droit au logement. Et j'ajouterais que c'est à l'heure actuelle à peu près la seule façon de développer du logement familial qui soit véritablement abordable pour les familles à modeste revenu. Dans le cas du logement social, là où je disais que les gouvernements se désengagent, c'est que le gouvernement fédéral, qui depuis des décennies verse des subventions aux coopératives d'habitation, aux organismes sans but lucratif d'habitation et pour les HLM, donc pour aider les ménages à faible revenu à payer moins cher de loyer.
Mmh.
Et ne refuse de reconduire ces subventions-là. Et on est en train de voir disparaître des subventions qui ont été versées pendant des décennies au fur et à mesure que les ensembles immobiliers finalement atteignent ou finissent de rembourser leur hypothèque. Et c'est un problème. C'est un problème majeur parce que dans la plupart des cas, les autres locataires ne sont pas en bonne position pour venir en aide aux ménages à faible revenu.
Alors, vous voulez dire que pour les coopératives, c'est ça, ça touche les coopératives et tout ça, les habitations?
Oui, c'est-à-dire que le gouvernement fédéral refuse de prolonger les subventions qu'il verse aux ménages à faible revenu dans les ensembles qui sont en train de finir de rembourser leurs hypothèques, qui sont des hypothèques généralement de 35 ans. Évidemment, pour les ensembles, pour les coopératives, les OSBL d'habitation, et ce sera même également le cas pour les provinces et les municipalités en ce qui concerne les HLM, mais eux vont arriver au terme de leurs hypothèques plus à la fin de l'actuelle décennie, donc c'est dans quelques années. Mais bref, pour tout ce monde-là, la fin d'hypothèque, d'une première hypothèque, ce n'est pas la fin des hypothèques, puisque dans la plupart des cas, il va falloir réhypothéquer les immeubles pour faire des travaux qui s'imposent après 35 ans ou après 50 ans même, c'est dans le cas des HLM. Alors, les locataires à plus modestes revenus, notamment dans les coopératives d'habitation, vont avoir de toute façon à subir un nouvel emprunt hypothécaire et ne sont pas équipés pour pouvoir soutenir les locataires à plus faible revenu qui vont perdre des subventions de l'ordre de 200 voire 300 $ par mois. Là, c'est pas rien, là.
Non, c'est pas rien.
Et ça concerne une très grande proportion du parc de logement social au Québec. Pour le Québec, c'est à terme 85 % du parc de logement social qui est concerné par cette perte de finances-là, de subventions-là du gouvernement fédéral.
Mm-hmm.
On parle de 125 000 logements sociaux ainsi. Et ça, c'est du point de vue fédéral. Et du point de vue du gouvernement du Québec, ben c'est toujours à l'arraché, année après année, qu'on a obtenu des reconductions du programme Accès Logis, qui est le dernier des derniers programmes qui, à l'heure actuelle, nous permet encore de développer du logement social. C'est vraiment de peine et de misère qu'on obtient des reconductions. Et à l'heure actuelle, dans le cadre de tous les travaux du gouvernement du Québec, pour atteindre l'équilibre budgétaire et pour revoir les programmes, là, dans le cadre de la commission de révision permanente des programmes, ce qu'on nous dit est extrêmement préoccupant.
Qu'est-ce qu'on vous dit?
Ce qu'on nous dit, c'est que le gouvernement envisagerait d'abandonner le programme Accès Logis, ni plus ni moins.
Bon.
Alors, on est en campagne à l'heure actuelle, en campagne intensive pour d'abord alerter tous les gens qui se préoccupent de l'avenir du logement social. Ça inclut non seulement évidemment les groupes qui représentent les mal logés, qui regroupent et qui représentent les mal logés, mais également les municipalités sont préoccupées par le sujet. Évidemment, les organismes qui gèrent le logement social sont également préoccupés par le sujet. Alors, on fait notre travail d'information et de mobilisation à ce niveau-là et on organise également des actions pour tenter de convaincre le ministre Pierre Moreau, qui est le ministre responsable de l'Habitation Québec.
Est-ce que vous avez de l'écoute
d'abandonner ce plan-là?
Est-ce que vous avez de l'écoute? Est-ce qu'il y a espoir de négociation? Est-ce que vous avez...
On n'est pas dans un mode de négociation avec le gouvernement du Québec à l'heure actuelle. D'ailleurs, j'aimerais bien que vous me nommiez un seul secteur qui est en mode de négociation avec le gouvernement à l'heure actuelle. Pas parce que les gens ne veulent pas négocier, mais parce que le gouvernement avance et reste sourd et aveugle à toutes les interrogations, à toutes les objections. Donc, on est plus dans la construction d'un rapport de force. On est mobilisé et en action pour construire un rapport de force. Et on n'est pas les seuls à le faire, d'ailleurs.
Merci, Mme Corriveau.
Ça m'a fait plaisir.
Un terrain vague de vagues clôtures, un couple divague sur la maison future. On s'endette pour 30 ans, ce pavillon sera le nôtre et celui de nos enfants corrige la femme enceinte. Les travaux sont finis, du moins le gros œuf, ça sent le plâtre et l'enduit et la poussière toute neuve. Le plâtre et l'enduit et la poussière toute neuve.
Les ampoules à nu pendent des murs, du plafond. Le bébé est né, il joue dans le salon. On ajoute à l'étage une chambre de plus. Un petit frère est prévu pour l'automne. Dans le jardin, les arbres aussi grandissent. On pourra y faire un jour une cabane. On pourra y faire un jour une cabane. Les enfants ont poussé, ils sont trois maintenant. On remplit sans se douter le grenier doucement. Le grand habite le garage pour être indépendant. La cabane, c'est dommage, est à l'abandon. Monsieur rêverait de creuser une cave à vin. Madame préférerait une deuxième salle de bain. Ça sera une deuxième salle de bain. Les enfants vont et viennent chargés de linge sale. Ça devient un hôtel, la maison familiale. On a fait un bureau dans la petite pièce d'en haut et des chambres d'amis. Les enfants sont partis. Ils ont quitté le nid sans le savoir vraiment. Petit à petit, vêtement par vêtement. Petit à petit, vêtement par vêtement. Ils habitent à Paris, des apparts sans espace. Alors qu'ici, il y a trop de place. On va poser, tu sais, des stores électriques. C'est un peu laissé vrai, mais c'est plus pratique. La maison somnole comme un chat fatigué. Dans son ventre ronronne la machine à laver. Dans son ventre ronronne la machine à laver. Les petits enfants espérés apparaissent. Dans le frigo, on remet des glaces. La cabane du jardin trouve une deuxième jeunesse. C'est le consulat que rouvrent les gosses. Le grenier sans bataille livre ses trésors. Ses panoplies de cow-boys aux petits ambassadeurs. Colonise pour la dernière fois la modeste terre promise. Quatre murs et un toit. Cette maison est en vente, comme vous le savez. Je me présente, agent immobilier. Je dois vous prévenir, si vous voulez l'acheter, je préfère vous le dire, cette maison est hantée. Ne soyez pas monsieur, n'ayez crainte madame, c'est hanté, c'est vrai, mais de gentils fantômes.
Et la chanson Benabar, quatre murs et un toit, tout à fait de circonstance, comment s'assurer que tous ont accès à un logement qui convient à leurs besoins? C'est les questions de Sophie aujourd'hui, c'est notre question, donc on fait le tour. On est tout de suite avec Pascal Marceau, les responsables du dossier de l'habitation à la Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec, la COFAN. Bonjour Madame Marceau.
Bonjour.
Alors, on a vu en début d'émission avec le FRAPRU, c'est pas vraiment rose qui se passe au niveau du logement au Québec. Qu'en est-il pour votre organisme? Est-ce qu'il y a beaucoup de programmes? Quel est le portrait exact?
Ben, en fait, c'est certain que pour les personnes qui ont des limitations fonctionnelles, les besoins, il y a quelques besoins de nature plus spécifique, notamment la difficulté de trouver des logements qui répondent aux besoins de la personne. Ils vivent, c'est certain que les personnes qui ont des limitations vivent les mêmes problématiques que tout le monde, ont les mêmes difficultés financières, difficultés à trouver les logements, mais se rajoutent à ça aussi les aspects physiques des lieux. Donc, c'est toujours une problématique plus aiguë, je dirais. C'est certain que ce qu'on remarque, c'est un problème, je vous dirais, à double avenue, autant que les personnes ont une difficulté à trouver les logements, autant que lorsque des propriétaires ont des logements avec des caractéristiques d'accessibilité, ils disent avoir de la difficulté aussi à trouver preneur. Donc, on se retrouve avec des difficultés, je dirais, de communication entre les deux.
Ah oui. Est-ce que vous direz qu'il y a de l'exclusion? Est-ce qu'on ou c'est pas du tout ça?
C'est pas de l'exclusion, vous voulez dire?
Qu'on exclurait certaines personnes au niveau des propriétaires?
Ah, ben écoutez, c'est certain qu'il y a toujours des cas qu'on pourrait dire de discrimination, mais c'est pas ça qui semble être la problématique majeure. Lorsqu'on parle de faire adapter un logement, ça peut paraître aussi complexe pour un propriétaire. Donc, on parle dans ce cas-ci souvent du programme d'adaptation domicile, le PAD, qui est un programme géré par la Société d'habitation du Québec, où on fait une demande de subvention à un montant maximal de 16 000 $ là, si on n'a pas besoin de grosses adaptations. Et ça demande au propriétaire, c'est certain, une certaine, ouverture à ce que des modifications soient apportées dans l'appartement. Donc, c'est certain que peut-être que des propriétaires pourraient être réticents, mais c'est pas la majeure problématique qu'on entend.
Alors, c'est le propriétaire qui fait la demande justement pour rénover adapter l'appartement, c'est ça?
Ben, en fait, c'est la personne qui fait la demande auprès du CLSC, mais ça prend la permission du propriétaire. C'est certain, lorsqu'on est occupant et qu'on n'est pas propriétaire, okay. Il faut avoir l'engagement là, du propriétaire.
Alors, Madame Marceau, on va pour les biens de nos auditeurs et auditrices dire quel programme. Donc, il y a ce programme-là où la personne qui a des difficultés fonctionnelles peut aller donc au CLSC et faire une demande, c'est ça? Il y a ce programme-là, et est-ce qu'il y en a d'autres?
Ben, il y en a d'autres, mais qui sont spécifiques. Par exemple, il y en a qui vont être gérés par la CSST si c'est un accident au travail, un accident de la route. Bon, il y a différents programmes qui existent. Mais pour le programme, je dirais, plus général, accessible aux personnes qui ont des limitations, c'est celui géré par la SHQ. C'est eux qui ont le mandat de donner cette enveloppe monétaire-là pour aider à l'adaptation d'un domicile. Mm-hmm. Ce qu'on remarque, c'est que, en fait, le propriétaire, par la suite, n'est pas obligatoirement tenu de maintenir ces adaptations-là dans le logement. Donc, on pourrait se dire que, comme société, étant donné que ça fait plusieurs années qu'on investit de l'argent public pour adapter des logements, on devrait détenir un bassin de logements accessibles de plus en plus grand, mais ce n'est pas nécessairement le cas, puisque, comme je dis, lorsque la personne quitte, le propriétaire n'est pas tenu à maintenir et à relouer son appartement à une seconde personne handicapée. Okay. Donc, récemment, en fait, ça fait plusieurs années que le milieu tente d'amener le Québec à construire différemment, de façon plus proactive. Mm-hmm. On a un outil au Québec qui est le Code de construction qui assure des normes minimales. Et puis, d'autres provinces le font, d'autres pays le font. On tente au Québec d'obtenir des articles dans le Code de construction afin que l'intérieur des logements comporte certaines caractéristiques d'adaptabilité à la construction même. Donc, c'est là-dessus que la COFAN travaille, entre autres, avec la Régie du bâtiment du Québec, et ce sera des travaux pour la prochaine année, à construire différemment au Québec et à prendre en considération certaines caractéristiques dès le départ.
Donc, des appartements durables et adaptés.
J'irai pas. Le terme adapté aurait une autre signification dans ce contexte-là, mais disons certaines caractéristiques pour lui donner un potentiel d'adaptation.
Alors, on ajoute potentiel avant.
Oui.
Dites-moi, on parlait des programmes, j'ai l'impression que ça va comme ça, c'est-à-dire qu'il faut chercher puis il faut travailler pour trouver ces programmes. Est-ce que ce serait pas mieux d'avoir un guichet unique, centralisé, pour le logement adapté?
Oui, ben en fait, ça aussi, c'est quelque chose qui a été demandé depuis longtemps. Non pas nécessairement un guichet unique pour les programmes ou les ressources qui sont disponibles, mais le milieu a longtemps demandé une banque de logements, c'est-à-dire une façon d'identifier ces logements-là pour que lorsque la personne recherche, elle puisse rapidement identifier des caractéristiques de base. Je vous dirais que c'est un dossier assez complexe, notamment vu les ressources que ça demanderait et les difficultés de mise à jour. Il existe déjà certains organismes actuellement qui aident à la recherche de logements et c'est leur principale difficulté de maintenir à jour à chaque année. Est-ce que le propriétaire rend son logement disponible ou non? C'est très, très complexe. Donc, c'est peut-être une des raisons pourquoi on n'a jamais abouti à cette solution-là au Québec. Mais il y a des travaux qui se font, des réflexions encore à savoir quelle serait la meilleure façon de procéder.
Mais qu'est-ce qui pourrait faciliter la recherche pour les personnes qui vivent avec une limitation fonctionnelle?
Ben, vous voyez, pour commencer, on commence à avoir l'initiative, notamment sur des plateformes comme Kijiji, où quand un propriétaire veut afficher son appartement, il coche, il y a des filtres en fait, et puis quelques-uns commencent à utiliser la mention accessible. Donc, c'est certain qu'on met un petit bémol à ça, puisque accessible ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Mm-hmm. Et les personnes qui ont des limitations aussi sont un peu, je dirais, frileux, parce que ça arrivera souvent qu'on appelle le propriétaire, on dit « Votre logement est accessible? » « Oui, madame, il y a seulement deux ou trois marches à l'extérieur. »
Bon.
Donc,
C'est pas la même définition, en effet.
Non, effectivement. Ouais, ouais. Mais il y a des initiatives comme ça où on pourrait commencer à imaginer de quelle façon on peut utiliser les ressources existantes afin d'assurer une représentativité là, des caractéristiques d'accessibilité pour, du moins, permettre un premier filtre de sélection.
Mm-hmm. Est-ce qu'on en trouve assez, des logements? Est-ce qu'il y en a assez?
Non, il n'y en a pas jamais assez.
Non,
c'est certain. Il y a des progrès où les nouvelles constructions tentent de plus en plus à garder un certain... par exemple, dans le logement social et communautaire, il y a certaines règles pour construire accessible, mais je vous dirais que tant que la Régie du bâtiment du Québec et en fait le ministre du Travail qui est responsable, tant qu'il n'y aura pas des engagements à ce que... Parce que pour le moment, il y a des critères d'accessibilité pour les nouvelles constructions, mais ça s'arrête à la porte du logement. Mmh. Donc, c'est pour les portes d'entrée, les édifices, les couloirs, mais rien pour l'intérieur.
Et au niveau financier, est-ce qu'ils sont abordables, ceux qu'on a là sur le marché? Parce qu'on a vu en début d'émission que là, c'est fou, là.
Non.
Le logement, ça monte, ça grimpe, là.
C'est le même problème.
C'est
encore pire parce que pour une personne qui utilise, par exemple, une aide à la mobilité motorisée, on s'entend que ça lui prend beaucoup plus de superficie.
Mmh.
Donc, la toilette doit être plus grande. Souvent, c'est des personnes qui ont du soutien à domicile, donc qui sont accompagnées lorsqu'ils sont, par exemple, en train de cuisiner ou à la salle de bain. Donc, ça demande des superviseurs beaucoup plus grande. Et vous le savez, plus que c'est grand, plus que ça coûte cher.
Mmh. Merci beaucoup, Madame Marceau.
Mais c'est un plaisir.
Un plaisir.
Écoutez les questions de Sophie avec Sophie Stanquet.
Au mois de février, c'est le moment où on doit se décider si on renouvelle notre bail ou pas. On reçoit les fameuses lettres et puis on a très peu de temps pour répondre. Et là, on est vraiment au niveau légal, tout va très bien, mais il y a encore beaucoup de choses qui peuvent se passer avant et après. Et pour nous parler de ce dossier, c'est Maître Guillaume Rondeau, les spécialistes en vulgarisation juridique chez Éducaloi. Bonjour, Monsieur Rondeau.
Bonjour, comment allez-vous?
Ça va bien, et vous?
Très bien, merci.
Alors, je disais qu'au mois de février, il y a des choses qui se passent. Le propriétaire, normalement, doit avoir des nouvelles des locataires et on doit répondre si jamais on ne veut pas renouveler notre bail. On doit leur faire signe, faire un petit coucou par écrit, c'est ça?
Et voilà. Si on dresse un peu le portrait rapide de tout ça, le principe de base, c'est qu'en termes de bail résidentiel, donc dans le bail d'un logement, le bail va être automatiquement renouvelé à la fin. Donc, quand le bail arrive à terme, il va être renouvelé automatiquement. Donc, si on prend le cas le plus classique qu'on a au Québec, c'est le bail qui va commencer, au fond, le 1er juillet et qui va se terminer 12 mois plus tard, le 30 juin. Et donc, si... le locataire n'envoie pas d'avis, si le propriétaire n'envoie pas d'avis lui non plus, le bail va être automatiquement renouvelé pour une nouvelle année à partir du 1er juillet. Donc ça, c'est le principe de base. Maintenant, si on veut éviter le renouvellement du bail, bien, il y a deux possibilités. Il y a soit le locataire qui décide de quitter et donc qui veut avertir son propriétaire, ou encore, il y a le propriétaire qui veut modifier le bail, par exemple, qui veut imposer une hausse de loyer, et donc là, lui aussi va devoir envoyer des avis. Donc, comment ça fonctionne? Souvent, ça se passe aux alentours du mois de février, mais en fait, les délais sont un petit peu plus larges que ça. Si on prend le bail habituel, comme je disais, là, qui commence le 1er juillet, vous allez devoir envoyer en tant que locataire là, votre avis de non-renouvellement entre le 1er janvier et le 31 mars. Donc,
on a trois mois
pour le faire. Donc, c'est de trois à six mois avant la fin du bail où il faut informer notre propriétaire qu'on ne désire pas renouveler le bail.
Bon, est-ce que ça doit être une lettre enregistrée par écrit? Ça se fait pas par téléphone? Ça se fait pas par texto?
Et voilà. Il faut que ça se fasse absolument par écrit.
Ouais.
C'est super simple. Vous allez sur le site de la Régie du logement. Il y a un modèle qui est là. C'est un modèle qui tient sur une page. C'est très court. Et donc, une fois que vous avez rempli ce document-là, vous l'avez signé. Ça s'appelle, plus précisément, là, c'est l'avis de non-reconduction du bail par le locataire. Et donc, vous remplissez cet avis-là. Vous envoyez ça soit par courrier recommandé, idéalement pour avoir une preuve que le propriétaire l'a bien reçu, ou encore, vous pouvez lui donner en personne, mais là, vous vous assurez là, qu'il va vous signer un document disant qu'il l'a bien reçu.
Okay.
Donc, il y a un accusé réception là, qui est prévu déjà sur le formulaire en question. Et donc, vous avez du 1er janvier au 31 mars pour envoyer ça. Puis, si jamais vous ne l'envoyez pas, ben vous êtes pris avec votre bail.
C'est ça.
Donc, ça va être à vous, par la suite, à trouver un nouveau locataire, là, soit pour céder le bail ou encore sous-louer le bail. Mais ça va être de votre responsabilité à vous.
Bon, maintenant, on va dire que je quitte, j'ai bien fait les choses.
Oui.
Je m'en vais voir un nouvel appartement. Je le trouve beau.
Oui.
Et la première chose qu'on me demande, on me dit, ben voilà, je vais faire une enquête de crédit à la signature du bail. Est-ce que le propriétaire a le droit de faire ça?
Je vous dirais, c'est une question assez épineuse. C'est-à-dire que, d'un côté, la loi ne prévoit pas explicitement ce droit-là. Donc, nulle part dans la loi, on vient de dire que oui, le propriétaire peut exiger une enquête de crédit, mais en même temps, la loi ne l'interdit pas explicitement non plus. Donc, ce qui arrive, c'est qu'en pratique, il va y avoir différentes choses qui vont se produire. Donc, ce qu'on va voir le plus souvent, c'est un propriétaire qui va vous demander, au fond, votre autorisation pour procéder à une enquête de crédit. Si vous acceptez, il va vous faire signer un bout de papier et lui va procéder à son enquête par la suite, il n'y a pas de problème. Si jamais vous refusez cette enquête de crédit-là, ça devient un petit peu plus compliqué. Comme je dis, la loi ne le prévoit pas. Et ce qui va fort probablement arriver, c'est que le propriétaire ne voudra pas vous louer le logement. Et là, vous, de prendre un recours par la suite pour essayer d'avoir le logement, tout ça, disons qu'en termes de délai, en termes de coûts, c'est vraiment pas évident. Donc, l'idéal, c'est de négocier avec le propriétaire et peut-être lui donner d'autres preuves que vous êtes un bon locataire, que vous allez être en mesure de payer, par exemple, des références de vos anciens propriétaires. Donc, c'est de voir avec lui. Mais d'un point de vue vraiment strictement juridique, je voudrais qu'il y ait des associations de locataires qui disent que c'est pas permis. Il y a des associations de propriétaires qui disent que c'est tout à fait légal. Et donc, on demande au gouvernement d'intervenir un peu là, pour qu'on ait des règles plus claires, parce que c'est pas précis.
J'ai l'impression que ça va un petit peu à la tête du client. En parlant de la tête du client, est-ce que on parle souvent de discrimination en matière de logement? Qu'en est-il réellement? Et si jamais je me sens que j'ai été discriminée, quels sont mes recours?
Bon, quand on parle de discrimination, de manière plus générale, c'est quand on empêche une personne de bénéficier des mêmes droits que les autres ou encore d'avoir accès aux mêmes services que les autres, en fonction d'un motif de discrimination qui est prévu dans la charte. Donc, quand on parle en termes de logement, c'est par exemple, tout simplement, on va nous refuser un logement pour différents motifs. Par exemple, on va avoir le sexe de la personne, homme-femme, le fait qu'une personne est enceinte, ça peut être des questions de race, d'origine ethnique, d'orientation sexuelle, ça peut être parce qu'on est célibataire ou on est marié, ça peut être parce qu'on est jeune, puis souvent les gens vont croire qu'on fait le party un peu plus souvent. Ça peut être parce qu'on est une personne âgée. Donc, il y a plusieurs motifs. Et dans ce cas-là, je vous dirais, ce ne sont pas des dossiers qui sont simples. L'idéal, c'est de contacter la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Donc, il y a un bon service d'information. On va pouvoir vous aiguiller, vous indiquer un peu comment procéder. Mais je voudrais encore une fois, c'est des dossiers délicats là aussi. Ce n'est pas toujours facile de prouver que le propriétaire ne nous a pas loué un logement à cause d'un motif vraiment de discrimination. Donc, je voudrais, informez-vous, il y a des comités logement aussi qui peuvent vous donner un coup de main, mais la référence vraiment là, en termes de discrimination, ça serait vraiment la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse.
Bon, alors, je reviens en arrière. Je trouve beau mon logement, je décide de rester, mais là, je viens de recevoir une lettre qu'on me dit que je vais payer 30 % de plus pour le mois de juillet. C'est quoi le pourcentage? Parce que beaucoup de gens là, posent beaucoup la question sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'on nous a posé aussi. C'est quoi le pourcentage? Quand est-ce que j'ai l'impression que je me fais avoir et que je me fais pas avoir, Maître Rondeau?
Je vous dirais, si on parle de 30%, je vous dirais tout de suite, vous vous faites avoir.
Bon.
Si on va dans ces chiffres-là, autrement, ce qu'on entend souvent parler, c'est des taux que la régie va publier à chaque année. Donc, certains pourcentages. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des estimations. Donc, ce ne sont pas des chiffres que les propriétaires doivent absolument respecter ou des chiffres au-delà desquels les propriétaires ne peuvent pas imposer de hausse. En fait, la régie va utiliser la hausse des coûts de la vie, les différents, les coûts de l'énergie, tout ça. et va établir un peu des moyennes, si on veut, des estimations sur le type de logement. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que la hausse de loyer va dépendre vraiment de l'immeuble en question, du logement en question. Puis c'est de voir, bon, est-ce qu'il y a eu des travaux majeurs durant l'année? Est-ce que les frais d'entretien ont augmenté? Est-ce que les primes d'assurance sont plus chères? Est-ce que les taxes scolaires, taxes municipales, tout ça a monté? C'est des règles assez complexes qui s'appliquent, mais la Régie du logement a développé un outil. C'est disponible directement sur son site web. Sur la page d'accueil, là, vous allez y avoir accès. C'est un outil de calcul de fixation des loyers.
Okay.
Et donc là, la Régie a mis dans un formulaire relativement simple les règles qu'on doit appliquer pour déterminer si une hausse de loyer est raisonnable ou pas. Et donc, vous pouvez utiliser cet outil-là pour avoir une idée si oui ou non ce qu'on vous demande là, comme hausse de loyer est raisonnable, puis discuter par la suite avec le propriétaire.
Mais si rien n'a bougé, on va prendre le cas là, justement où je me fais avoir avec le 30%, si rien n'a bougé, il n'y a rien rénové, les taxes n'ont presque pas bougé, mon logement est exactement pareil,
oui.
Et puis qui me demande 30%, là, c'est sûr que c'est quoi le pourcentage dont je dois m'attendre?
Au fond, ce qui va arriver dans ce temps-là, c'est que le propriétaire, dans tous les cas, qui veut augmenter le loyer, il faut qu'il vous envoie lui aussi un avis à l'avance. Donc lui aussi, okay. De 3 à 6 mois avant la fin du bail, il doit vous envoyer un avis. Et là, vous, quand vous recevez cet avis-là de hausse de loyer, vous avez 1 mois pour répondre et vous avez le droit de refuser la hausse de loyer. Donc si jamais vous refusez cette hausse de loyer-là, encore une fois, vous le faites par écrit, ça va être au propriétaire à prendre un recours devant la Régie pour, au fond, faire valider sa hausse de loyer. Donc ça va être sa responsabilité à lui d'aller devant le tribunal pour prouver que la hausse de loyer est raisonnable. Donc, je vous dirais que c'est vraiment sur ses épaules à lui. Donc, vous refusez cette hausse de loyer-là et vous laissez votre propriétaire faire son travail de son côté et vous verrez par la suite devant la Régie comment ça se déroule, mais vous avez le droit de le refuser.
Alors, en terminant, quelles sont les ressources utiles en matière de logement si j'ai envie de vraiment bien faire mon travail, de voir que tout est correct avant de rencontrer mon propriétaire pour connaître mes droits?
Les principales ressources, je vous disais, évidemment, il y a la Régie du logement, il y a son site web qui a des fiches d'information, il y a des modèles d'avis qui sont présents. Vous pouvez aussi appeler à la Régie du logement, donc il y a un service d'information téléphonique. Autrement, il y a les différents comités logement. Donc, dans pas mal tous les quartiers de Montréal, il y a un comité logement. Et donc, vous pouvez les contacter aussi. Et pour avoir leurs coordonnées, vous pouvez visiter il y a le regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec. Donc, c'est vraiment un regroupement de comités logement qui vont pouvoir vous aiguiller pour vous diriger aux bonnes places. Et sinon, autrement, bien, il y a le site web d'Éducaloi également qui fournit beaucoup d'informations. Donc, on a des articles vraiment spécialisés dans le droit du logement. Donc, on va traiter toutes les questions qu'on a vues aujourd'hui et beaucoup plus. On explique ça dans un langage là, qui est accessible. Donc, vous pourrez vous informer à l'avance.
Merci, Maître Rondeau.
Ça me fait plaisir.
Un plaisir.
Au revoir.
Qu'en est-il des logements et les aînés? Hein? Ça va nous arriver, on va tous vieillir, ça c'est une certitude, et on veut tous vieillir chez nous. On a ce rêve de conserver les objets, de conserver nos souvenirs, et dans la réalité, qu'en est-il? Alors on va tout de suite parler à Danny Prudhomme, directeur général du réseau FADOC. Bonjour Monsieur Prudhomme.
Bonjour à vous.
Quand je dis qu'on a tous ce rêve de vieillir chez nous, c'est comme ça en 2015, les gens que vous côtoyez vous disent « j'ai envie de terminer mes jours dans ma propre maison ».
Bien évidemment, surtout qu'on dit que c'est la meilleure façon aussi pour s'assurer qu'on ait une qualité de vie adéquate.
Mm-hmm.
Donc les gens, oui, aimeraient finir chez eux leur vie avec tout ce qui leur entourage et leurs souvenirs.
Oui, avec le plus autonome possible. Mais quelles sont les mesures qui permettraient d'exaucer leurs souhaits?
En fait, malheureusement, je dois vous dire que de passer au rêve à la réalité, c'est un peu plus difficile pour plusieurs raisons. Dans un premier temps, dans plusieurs villes, surtout aux abords des cours d'eau, les taxes foncières augmentent tellement que les gens sont pris à vendre leur maison parce qu'ils ne peuvent plus demeurer avec les revenus fixes qu'ils ont. Ça, c'est une chose. La deuxième, tout ce qui est de service à domicile, justement,
mais
si on commence à perdre notre autonomie ou on a besoin de soins, ça, c'est pas évident.
Donc, un meilleur accès à des soins à domicile. Aussi, au niveau de l'aide financière, parce qu'il y a des constructions de plus en plus des maisons intergénérationnelles, mais il n'y en a pas beaucoup quand même. Y en a pas... Quand on regarde à Montréal, on en cherche et on n'en trouve pas beaucoup.
Tout à fait. On peut voir que dans certains quartiers où on a essayé de construire des maisons intergénérationnelles, comme on dit, ça n'a pas été au goût du jour pour des raisons. En tout cas, il n'y a pas eu d'études de fait, donc on ne peut pas dire pourquoi exactement, mais on sait que dans certaines villes, ce n'est pas nécessairement des choses qu'on recherche au niveau de l'urbanisme. Donc ça, c'est un problème. Et de l'autre côté, on sait que plusieurs familles sont explosées aujourd'hui. Donc on peut travailler à peu près n'importe où dans le monde. Mmh. Les enfants ne sont pas toujours près des parents. Et ça, c'est un autre problème aussi possible.
Comment s'assurer aussi qu'au niveau financier, ils vont pouvoir y arriver? Parce que c'est pas évident. On parle beaucoup dans l'émission que depuis le début, que les logements, ça monte. C'est difficile pour tout le monde, d'autant plus les aînés qui ont arrêté de travailler, qui méritent le repos. Et comment faire pour qu'ils puissent terminer leur jour dans leur maison, mais aussi payer, là, qu'ils ne s'endettent pas et tout ça?
Oui, on frappe aussi un problème assez urgent, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, en fait, statistiques, nos gens de 65 ans et plus au Québec, à peu près 1 sur 2 gagnent comme revenu moins de 20 000 par année.
Mmh.
Et si on prend uniquement les femmes de 65 ans et plus, c'est malheureusement notre population la plus pauvre au Québec.
Mmh.
Donc, ils sont souvent sous le seuil de pauvreté.
Mmh.
Donc, c'est très difficile d'y arriver.
Oui. Alors, j'ai entendu des choses, ma recherchiste m'en a parlé, cauchemar. Ces aînés-là sont malades et quelques semaines après ou un mois, peuvent perdre leur appartement. Est-ce que c'est vrai, ça? Est-ce que vous entendez beaucoup parler de ça? C'est-à-dire qu'ils sont hospitalisés, puis ils rentrent, puis ils n'ont plus d'appartement.
En fait, ce qu'on voit qui se passe, c'est, par exemple, on a beaucoup de gens qui vont profiter du fait comme on dit, de modifier les appartements en condo. Et avant de le faire, comme un nouveau propriétaire a le droit, si c'est sa famille qui prend place, d'expulser quelqu'un, dans certains quartiers de Montréal, plus particulièrement, on voit des aînés se faire évincer. Et là, on a un grand problème parce que, considérant que les gens restent là depuis beaucoup d'années, le loyer est quand même très bas comparé à ce qu'il y a sur le marché.
Mmh.
Et là, ils ne peuvent plus se loger. Ça, c'est une chose. De l'autre côté, effectivement, on va voir des gens, lorsqu'ils n'occupent plus leur appartement pour X raisons, ils ont été hospitalisés pendant un grand bout de temps. On voit malheureusement certaines fois des propriétaires qui ont, comme on dit, voulu mettre la main sur le loyer, là.
Mais oui, c'est ça. Puis ils sont partis à l'hôpital, ils ont été malades, ils reviennent et ils n'ont plus d'appartement. Alors, quels sont les recours à ce moment-là pour la famille et pour les aînés?
Écoutez, c'est sûr que tant qu'on paie notre loyer, et qu'on est à jour, et même si on ne payait pas, enfin, on voit des gens qui ne paient pas leur loyer, on ne peut pas les évincer. Il y a des recours à la régie du logement. Je pense que les gens, la meilleure chose à faire, et je sais que ce n'est pas facile, mais c'est d'aller via la régie du logement. Autre ressource possible, quand des choses malheureuses comme ça arrivent, il y a ce qu'on appelle les centres d'accompagnement aux aînés, pour les plaintes, où on va aider à diriger pour trouver la meilleure solution.
Alors, maintenant, on va parler des aînés qui vivent en résidence. Il y a des programmes. Il y a le programme Rose d'Or. Pouvez-vous nous dire ce qu'est ce programme-là?
Oui, en fait, c'est un programme qu'on a initié en 98 au niveau de la FADOC, qui a mené en 2007 à la certification gouvernementale. Donc, notre programme a été repris à peu près à 70 % pour être intégré comme une loi qui est devenue la certification. Par la suite, on a mis sur pied un autre programme qui était pour la qualité de vie en résidence privée. Mm-hmm. Et de ce fait, la certification en a aussi été bonifiée parce qu'on a aujourd'hui des éléments de qualité de vie, à peu près une quarantaine de normes qui sont ajoutées à même la certification. Donc, notre mission à nous est de faire évoluer la qualité de vie. Je pense que du côté des résidences, on y a contribué grandement.
Bon, ben, justement, il y a des résidences qui sont bien, comme c'est comme dans la vie. Là, il y a des gens qui sont bien, d'autres moins bien. Comment voir à ce qu'il n'y ait pas d'exagération au niveau des tarifs, s'assurer, par exemple, si moi je cherche pour ma grand-mère un logement et qu'on ne va pas lui charger l'aspirine, on ne va pas lui charger la boîte de Kleenex, puis que tout soit bien, puis vraiment raisonnable au niveau du prix, est-ce qu'on peut voir un guide pour avoir des références?
Non, malheureusement, ça, c'est pas aussi réglementé que ça au Québec. Mmh. C'est un peu une foire difficile pour s'y retrouver, en ce sens qu'on a des prix qui varient énormément, des services qui varient énormément avec des prix qui s'y rattachent. Mmh. Et c'est pas, là, on peut pas aller sur un site web et trouver tout ça. Donc, c'est vraiment assez difficile de s'y retrouver. Et ce qu'on sait, c'est qu'un loyer moyen en résidence privée va tourner autour de 1 300 à 1 400 $ par mois. Okay. Dans des plus petites résidences et autour de 1 600 à 1 700 dans des plus grandes résidences. Okay. Et ça, c'est à la base, hein, on n'a aucun service là.
Alors, c'est ça. Donc, ça va au cas par cas. Et on n'a pas encore de guide pour savoir si ces gens-là sont bien. Parce qu'au niveau de la sécurité puis la dignité des aînés vivant en résidence, ben, parfois, c'est cauchemardesque. Là. Il faut se remettre à des étrangers, des gens. Et c'est difficile, là.
Oui, tout à fait. Et malheureusement, on ne peut pas penser que parce qu'on paie plus cher, on a des résidences qui peuvent aller jusqu'à 5 000 à 6 000 $ par mois avec des services. Okay. Ce n'est pas pour autant plus sécuritaire qu'une autre qui charge moins cher. Uh-huh. Donc, c'est vraiment un peu une jungle, malheureusement. Ce qu'il faut dire, par contre, c'est que ce n'est pas toutes les résidences qui ne sont pas bien. Là. Il y a quand même un bon paquet de résidences qui font un travail respectable. Ce qu'il faut vérifier, c'est lorsqu'on commence à perdre l'autonomie et qu'on a besoin davantage de soins, c'est là que ça se complique et c'est là que c'est plus difficile à s'assurer qu'on a les bons services.
C'est ça, vérifier si, bon, par contre, il y a des médecins qui viennent une fois semaine, une infirmière sur place, vérifier tout ça avant d'inscrire la personne.
Hein? Oui, mais malheureusement, on a vécu un cas il n'y a pas si longtemps où, malgré le fait qu'on se faisait confirmer que tout ça allait être là, ça n'a pas eu lieu et ça a amené plusieurs conséquences qui ont fait que la personne en est décédée au fil des mois. Donc, c'est très malheureux ce que ces familles veulent vivre parce que on pense qu'on met nos êtres chers à un endroit, ils vont être sécurisés, tout va être pour le mieux et c'est pas toujours le cas.
Est-ce que vous souhaiteriez que le gouvernement se penche davantage, qu'il y ait plus de lois au niveau des résidences pour les personnes âgées?
Ben, je pense que les lois qu'on a mises en place sont bonnes. Ce qui fait défaut, c'est l'application dans bien des cas et le suivi. Donc, on sait que si on est certifié pour être une résidence privée, on n'est pas certifié pour être un soin de longue durée. Okay. Malheureusement, comme les places pour les soins de longue durée, parce que les personnes commencent à avoir besoin de plus de soins parce qu'ils perdent de l'autonomie, ce n'est pas ici au Québec en tant que tel, les places sont en diminution alors que notre population vieillissante qui a besoin de soins est grandissante. Oui. Donc, le gouvernement a comme un désengagement et là, c'est les résidences privées qui prennent la place. Mais malheureusement, elles ne sont pas certifiées pour faire une telle chose au niveau des soins de longue durée. Et lorsqu'elles le sont, ben tant mieux. Mais même à ça, dans le cas des institutions gouvernementales, les centres hospitaliers de longue durée, on se demande si les soins sont appropriés parce que souvent, on va les qualifier de mouroirs. Alors que les gens ne vont pas nécessairement là mourir. Là.
Bon, il vaut mieux rester le plus longtemps possible chez nous en santé, mais parfois, on n'a pas le choix, malheureusement. Merci beaucoup, M. Prud'homme.
Merci à vous.
Au revoir. Alors, notre question aujourd'hui, comment s'assurer que tous ont accès à un logement qui convient à leurs besoins? Et nous sommes rendus au coup de chapeau. Brunilda Reyes, elle est fondatrice de Rayon de Soleil. Elle donne une seconde chance aux femmes, vraiment. Alors, bonjour Madame Brunilda Reyes, ça va bien?
Bonjour, comment allez-vous?
Ça va bien et vous? Alors, dites-moi, racontez-moi, qui peut habiter à Rayon de Soleil et quelle est la clientèle?
Et Rayon de Soleil, c'est un projet de logement social dédié à des jeunes mères et monoparentales. Quand je parle des jeunes mères, c'est des jeunes mères 18-30 ans. Mm-hmm. Et c'est des jeunes mères célibataires qui décident de se faire un projet professionnel et de retourner à l'école. On a 24 appartements. Et les 24 appartements sont occupés par des jeunes filles qui ils sont à l'école à plein temps. Mm-hmm. Et qu'ils veulent se faire un projet professionnel.
OK. Et qu'est-ce qu'elles vont payer comme prix modique, c'est quoi pour un appartement?
Comme tout logement social, ils payent 25% de revenus. Mm-hmm. Et ils sont aussi dans le même site, une place automatique quand ils rentrent chez nous. C'est automatique une place avec un CPE. C'est un partenaire qui nous donne la priorité dans le même édifice.
Okay.
Ils sont une intervenante accompagnatrice qui va les accompagner pour toutes les démarches. Il va les accompagner pour sa réussite au niveau scolaire. On est comme partenaire, bien sûr, l'essai local pour tout l'accompagnement psychosocial dans les cas que la maman il a besoin. Et on a à côté, Fourche de l'Espoir, un organisme en sécurité alimentaire qui fait aussi l'accompagnement communautaire.
Alors, tout le monde se donne la main pour que ces jeunes filles-là puissent réussir leur scolarité et leur famille. On m'a parlé de code. Vous avez un code de conduite. En quoi consiste-t-il?
Oui, tout à fait. L'objectif, réellement, c'est que les mamans, ils peuvent habiter là entre 3 à 5 ans. Ça va dépendre de son projet professionnel et à quel moment il arrive au niveau de ses études. Et il y a un code de vie. Il y a un code de vie à respecter. Et par exemple, les mamans, ils peuvent habiter, les mamans avec ses enfants, ils ne peuvent pas recevoir des visites, même si c'est de la famille, entre 11h du soir et 6h du matin.
Mm-hmm.
Et c'est quoi l'objectif? On ne veut pas couper la maman d'une vie sociale, ni de ses proches. L'idée, c'est que la maman, déjà, il y a beaucoup avec son enfant. Il va se dédier pendant 3 ou 5 ans à réussir l'école. Mm-hmm. En quelque part, elle va accepter de laisser un peu sa vie sociale, on va dire, et par revenir après en force avec un projet de vie.
Mm-hmm.
Et il va se dédier réellement, principalement, à ses études et bien sûr à l'éducation de son enfant.
Et comment elles réagissent à ce code au début quand elles arrivent?
Mais on les prépare avant. Quand mm-hmm. la fille arrive chez nous, elle est très consciente de l'engagement qu'il doit avoir. Elle est très consciente du code de vie qu'il y a. Bien sûr que ça nous arrive, qu'il arrive des filles qui arrivent chez nous avec la conviction qu'ils vont pouvoir respecter cet engagement-là.
Mm-hmm.
Et après, ils se rendent compte réellement que cet engagement, c'est pas pour eux. Et à ce moment-là, s'ils voient réellement que les projets, malgré que les projets, il peut donner des atouts, les codes de vie, il ne peut pas l'accepter, mais à ce moment-là, on va la soutenir pour qu'il laisse les logements.
Mmh. OK. Et parlez-moi de la réussite scolaire, parce que paraît-il que vous avez des résultats magnifiques. Et comment elles sont et comment elles se motivent justement pour réussir, toutes ces jeunes femmes?
Oui, mais notre organisme, il va fêter à la fin de l'année 2015, c'est la 5e année, ainsi qu'on commence à voir des résultats.
Mm-hmm.
On a des filles au niveau secondaire, au niveau cégep, on a aussi des filles au niveau universitaire.
Ah, c'est bien.
Et vous savez, le réussir, c'est à tout niveau. Hein, et on va accompagner la fille pour qu'à son niveau, à ses capacités et au temps qu'il veut donner à son projet professionnel, il peut aller chercher une formation.
Et
on, pour nous, on les sensibilise. Et c'est prouvé qu'avec un diplôme, avec une formation, ils ne vont pas revenir au point de départ au niveau de pauvreté. Ils vont avoir des difficultés, mais ils vont avoir un outil qui va les permettre de se reprendre. Mmh. Que pour les filles, quand ils voient cet accompagnement-là, il y a tout un milieu de vie qui est en train de se créer encore, malgré les 5 ans. Et les filles, réellement, ils comprennent qu'il y a une deuxième chance, que oui, qu'ils doivent faire des sacrifices, mais il y a toute une communauté en soutien. Ils ne sont pas tout seuls. Et on ne va pas préjuger de rien, on va l'aider à mesure qu'il y a des difficultés. Et pour les enfants aussi, c'est une façon en réalité, Sophie, de couper la pauvreté. Un enfant qui voit sa maman étudier va valoriser les études.
Et ils sont très fiers d'ailleurs, en terminant, parce que le temps
nous...
Ils sont fiers, les enfants, de voir leur mère étudier. Merci beaucoup, Brunel Dariès.
Merci à vous.
Alors, fondatrice de Rayon de Soleil, c'était notre coup de chapeau. Merci, mesdames, messieurs, d'avoir été à l'écoute des questions de Sophie. Merci à mon équipe, Christiane Campagne à la recherche, à la réalisation, Rémi Hermoso, et aux médias sociaux, Claudia Benoît. On se retrouve la semaine prochaine, mesdames, messieurs. Bye bye.